Tout de suite, on va parler précarité énergétique avec mon invité. C'est parti. Bonjour Aurélie Boguet.
Bonjour.
Vous êtes conseillère en précarité énergétique pour l'ALEC. L'ALEC, c'est l'agence locale pour l'énergie et le climat. C'est une association. On va revenir bien sûr sur cette association, sur votre statut également. Qu'est-ce que ça veut dire être conseillère en précarité énergétique? Et puis on reviendra sur la 6e rencontre départementale de la précarité énergétique dans la Nièvre qui a eu lieu le 19 novembre. Qui était présent? Les solutions qui ont été peut-être trouvées? L'objectif qui était prévu? Est-ce qu'il a été atteint cet objectif? Et par qui, comment? On viendra bien sûr sur cette 6e rencontre qui avait lieu le 19 novembre. Juste avant, je le disais, vous êtes conseillère en précarité énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est avant tout de la prévention, être conseillère en précarité énergétique?
Les deux, c'est pas que de la prévention. Conseillère en précarité énergétique, on est deux sur le département de la Nièvre. Donc le but, c'est d'accompagner les propriétaires occupants vers des travaux de rénovation énergétique pour sortir de la précarité énergétique. Et les locataires, on intervient aussi auprès des locataires. Le but, c'est d'intervenir directement auprès du propriétaire bailleur, en faisant de la médiation, l'incitant à faire des travaux. Et aussi bien propriétaire que locataire, c'est aussi les gestes du quotidien pour réduire sa consommation d'énergie et augmenter aussi le confort.
Trouver des solutions pour quitter cette précarité énergétique, mais trouver des solutions aussi financières pour pouvoir quitter cette précarité énergétique?
Oui.
J'imagine que c'est la grosse problématique aussi de certains propriétaires, c'est comment financer les potentiels travaux que vous leur proposez?
Oui. Trouver des solutions financières pour les propriétaires. Donc, on les accompagne au niveau des aides nationales. Il y avait aussi des aides au niveau du département. On ne sait pas encore si c'est reconduit en 2025.
D'accord.
Donc, ouais. C'est pour ça que je parle avec prudence en cette fin d'année 2024. Ouais. Mais il y avait des aides au niveau national, départemental et aussi au niveau des communautés de communes.
Est-ce que c'est vous qui identifiez une situation de précarité énergétique quand vous arrivez dans un logement ou vous arrivez en connaissance de cause, c'est-à-dire vous savez qu'il y a une vraie précarité énergétique dans ce logement?
Donc c'est pas nous qui identifions, c'est les assistantes sociales.
D'accord.
En fait, il y a un dispositif dans le département, c'est le FNAM, le Fonds Nivernais d'aide à la maîtrise de l'énergie, qui existe depuis une dizaine d'années. Et ce sont les travailleurs sociaux qui nous envoient des demandes parce qu'elles ont rencontré quelqu'un qui a soit des très grosses factures d'énergie, donc ça peut aller jusqu'à 3 voire 4 000 euros gaz ou d'électricité, ou alors des personnes qui n'ont plus de facture parce qu'elles ne chauffent plus, phénomène qu'on rencontre de plus en plus chaque année. Et donc on fait la visite en binôme avec le travailleur social pour comprendre d'où vient le problème et comment le résoudre.
Quelle est la situation actuelle de la précarité énergétique? Alors, en France, bien sûr, et puis ensuite dans la Nièvre, parce que vous axez essentiellement sur la Nièvre. Quelle est cette situation?
Donc en France, selon l'Observatoire national de la précarité énergétique, c'est l'ONPE, une famille sur 5 est concernée. Mmh. Et dans le département de la Nièvre, c'est une famille sur 4.
D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on est encore plus concerné que le niveau national, finalement, dans la Nièvre. Quel type de foyer est le plus touché ici dans la Nièvre? Quelle est la situation que vous rencontrez le plus souvent?
Alors, les typologies de famille, c'est plutôt les typologies de maison. Dans la Nièvre, on a un bâti ancien. Au niveau des étiquettes énergie, nos logements sont plus E, F, parfois G. On a aussi un climat assez humide. Un faible choix au niveau des énergies. Enfin, je veux dire, le Morvan, il y a encore beaucoup de fuel, de propane, ces énergies qui coûtent cher, qu'il faut faire livrer. C'est un facteur aussi. Et puis, après, les typologies de familles que nous, on rencontre en visite, c'est aussi bien des familles monoparentales que des couples avec des enfants, que des personnes âgées. C'est vraiment le logement et les faibles ressources aussi.
Votre rôle, c'est aussi de leur indiquer l'impact que peut avoir cette précarité énergétique sur la santé des personnes habitant dans le foyer?
Ah oui, complètement. Parce que souvent, les personnes, pour réduire leurs factures, utilisent des chauffages d'appoint, notamment pétrole ou au gaz, en bouteille, qu'on utilise normalement sur des chantiers. Et ça dégage énormément d'humidité, de COV, de composés organiques volatiles, Et ça peut être très nocif pour la santé, notamment pour l'asthme. Je pense aux enfants, on fait souvent des visites. Les enfants, il y a toujours un problème de santé qui s'est aggravé depuis qu'ils sont arrivés dans le logement et ils n'avaient pas fait le rapprochement forcément.
Oui, bien sûr.
On n'est pas médecin, mais on leur propose d'indiquer au prochain rendez-vous médical qu'ils utilisent ce genre de chauffage d'appoint.
Afin que le médecin, bien sûr, du coup, les guide vers une meilleure utilisation, peut-être, enfin, qu'il y ait des conseils aussi de toutes parts, de tout professionnel aussi.
Alors, vers une meilleure utilisation, le mieux, c'est de pas en utiliser, mais que le médecin sache qu'il y a ce genre de produit qui est utilisé à la maison et qui est un facteur aggravant.
Comment vous avez vu évoluer, vous, cette précarité énergétique, notamment dans la Nièvre, avec... On le sait, les prix des énergies qui ont augmenté, alors là, normalement, ils devraient baisser, arriver début janvier, début d'année 2025, normalement. Mais voilà, il y a le bouclier énergétique qui a été mis en place, il y a eu l'augmentation des tarifs sur différentes énergies que tout le monde a remarqué. Comment vous avez vu tout ça évoluer dans la Nièvre ?
Moi, je fais des visites depuis à peu près 7 ans. Quand je suis arrivée, au début, il y avait beaucoup, il y avait des familles. Il y avait du comportement, les télévisions tout allumées, les lumières, des températures de chauffage des fois à 23, 24 degrés, et puis les familles en t-shirt. Aujourd'hui, on n'en a plus du tout. Donc,
aujourd'hui, c'est 20 degrés maximum.
Oui, il n'y a plus de comportement. Les gens, tout éteint, les télévisions, les personnes font attention aux veilles, tout est débranché, les personnes font attention.
C'est à la fois rassurant et en même temps inquiétant. C'est un bon comportement à avoir sur le côté énergie de la planète, etc., consommation. Et en même temps, c'est inquiétant parce que ça veut dire quelque chose de la situation économique aussi pour ces personnes-là.
Oui, ça veut dire qu'elles n'ont pas eu le choix de changer leur comportement. Et après, ce qu'on rencontre aussi fréquemment, malheureusement, et de plus en plus, c'est les personnes sans chauffage. Il n'y en avait pas il y a 7 ans, jamais je faisais une visite, il n'y avait pas de chauffage.
C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, par exemple, vous allez partir visiter des foyers peut-être tout à l'heure où l'on enregistre, ou demain après-demain, on tourne autour en dessous des 10 degrés là, presque en ce moment, vous allez rencontrer des familles qui ne se chauffent pas.
Oui, l'hiver dernier, on a fait des visites avec 3-4 degrés, du givre à l'intérieur de la maison, sur les fenêtres, et l'année dernière, on a dû en faire une quinzaine sur 100, où il y avait soit pas du tout de chauffage, soit un chauffage vers 13-14 degrés, pas plus.
À partir de ce moment-là, vous rencontrez une famille comme celle-là. Vous, quel est votre rôle dans une situation comme celle-là ? Ça va au-delà de la prévention et de trouver une solution. Qu'est-ce que vous faites dans une situation comme celle-là ?
Déjà de comprendre ce qui s'est passé. Des fois, les familles ont eu des factures de régularisation trop élevées qui les a endettées. Ou qui les a traumatisés aussi, c'est aussi remettre un climat de confiance avec le travailleur social en disant on peut peut-être rallumer un petit peu le chauffage en surveillant la consommation, en relevant le compteur. Parce que du coup, la personne aurait la capacité financière de mettre 60-70 euros par mois de chauffage, mais a peur de la régularisation. Donc c'est remettre la confiance, réapprendre à maîtriser sa consommation, relever son compteur, soit sur le smartphone... quand on l'a, et encore quand on l'a, il faut savoir l'utiliser, mais aussi à la main avec le compteur Linky, on relève sur un petit papier, et ça on leur apprend combien de kilowattheures et combien ça fait en euros.
Est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué, une situation comme celle-là, lors de ces rencontres départementales, on va y venir, de la précarité énergétique dans la Nièvre, je le disais, les 6e rencontres ont eu lieu, c'était le 19 novembre, est-ce que c'est des cas concrets qui ont été évoqués lors de ces rencontres ?
Oui, complètement, et d'ailleurs... Parce qu'en 2024, il y a eu des aides nationales qui étaient très importantes. Et il y a eu un monsieur qu'on accompagnait sur Châteauneuf-Val-de-Bargy qui chauffait qu'une seule pièce, sa chambre, qui était chauffée au radiateur électrique. Alors quand je dis chauffée, c'est 14, hein, parce que dans le reste de la maison, il faisait 5. Et ce monsieur a fait des gros travaux d'isolation de combles, mode de chauffage, toutes les fenêtres. Et il y avait un projet à 50 000 euros de travaux.
D'accord.
Et un reste à charge à 300 euros grâce aux aides 2024, plus les aides de la Nièvre, plus les aides du FNAM, du Fonds Nivernais d'aide à la maîtrise de l'énergie. Et lors de ces rencontres, on l'a mis en avant, ce projet, pour dire que oui, c'est possible, il y a des solutions qui existent.
Bah oui, quand on paye que 300 euros sur 50 000 euros de travaux, ouais, c'est clair que c'est un bel exemple, ouais, pour le coup, c'est évident. Ces sixièmes rencontres, c'était quoi l'objectif finalement? Qui était présent déjà et avec quel objectif?
Donc l'objectif, c'est de faire se rencontrer les acteurs de terrain qui luttent tous les jours contre la précarité énergétique, donc les travailleurs sociaux, les chargés de mission des collectivités, des communautés de communes, ouais. Ça peut être les élus aussi. Et voilà, le but, c'est de les faire se rencontrer, de les informer aussi des actualités. Et pour le coup, ils sont très preneurs de ça, des nouveautés. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024 et qu'est-ce qui va se passer en 2025? Et c'est de l'intelligence collective.
Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qui en découle finalement de ces rencontres? Quel bilan on pourrait tirer maintenant à 15 jours finalement de ces rencontres qui ont eu lieu?
Donc à ces rencontres, on a eu plusieurs intervenants. Notamment le Secours catholique, Petit Frère des Pauvres. Mmh. On a eu aussi les correspondants solidarité d'EDF et de Engie. En information clé pour 2025, alors c'est pas une bonne nouvelle, c'est à propos du chèque énergie. Donc le chèque énergie, c'est une aide qu'on reçoit au mois d'avril, un petit papier dématérialisé type ticket resto, qu'on envoie à son fournisseur pour payer la facture. Et suite à la suppression de la taxe d'habitation, il y a eu un petit loupé administratif à Bercy. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais voilà. Et du coup, avant, les personnes étaient identifiées automatiquement avec la taxe d'habitation. Et là, c'est plus le cas. Du coup, tous ceux qui étaient anciennement éligibles et qui avaient bien rempli le chèque énergie et qui l'avaient préaffecté, il n'y a pas de problème. Par contre, les nouveaux bénéficiaires, par exemple, quelqu'un... qui quitte le domicile familial, un jeune. Ça peut être quelqu'un au chômage, un retraité, qui d'un seul coup devient éligible. Ce sera à lui d'aller faire la demande de chèque énergie en ligne.
D'accord. Donc, ce qui va impliquer beaucoup de personnes qui ne vont pas forcément pouvoir le faire, qui vont...
Oui. Déjà, il va falloir le savoir.
Ouais.
Et ensuite, une fois qu'on le sait, il va falloir faire la démarche.
Ouais.
Donc, il y a toute la population qui ne maîtrise pas Internet.
Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour communiquer justement sur ces choses-là, expliquer comment c'est possible d'avoir toujours ce chèque énergie, etc.
Oui, nous, on a fait, le CIEN a fait une communication là-dessus. Et après, on compte aussi sur les médias.
On
a relayé aux médias pour le diffuser.
Bien sûr. Donc, ce sera important de le dessiner puisque ce chèque énergie existe encore finalement. Seulement, les modalités pour pouvoir le recevoir ont changé. Ce n'est plus automatique. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu plus en détail sur ce procédé, le FNAM, sur cette aide?
Oui, donc le FNAM, c'est le Fonds Nivernais d'aide à la maîtrise de l'énergie. Donc, c'est un dispositif nivernais qui intègre un accompagnement socio-technique, en fait. Où quand on se rend à domicile, on étudie les gestes du quotidien, on étudie la facture d'énergie. Presque une famille sur deux, nous, qu'on rencontre, n'a pas l'abonnement électrique qui correspond à ses besoins.
D'accord, ok.
Donc ça, on réajuste. On propose aussi un kit énergie, donc ça veut dire qu'on installe des ampoules économiques, on peut installer des boudins de porte aussi pour éviter que l'air rentre, on mesure le débit d'eau, on peut installer des petites douchettes économes, et puis après on va discuter du choix des travaux.
Ça, les douchettes économes, on peut en trouver un petit peu partout, dans le commerce, sur internet, etc. Ça marche vraiment, c'est une vraie question parce que j'en ai une chez moi depuis pas longtemps en fait, et je me suis toujours posé la question, est-ce que vraiment ça marche ou pas?
Oui, complètement. En fait, la douchette économe, on est à 8 litres d'eau à peu près par minute.
D'accord.
Et une pas économe, on va être à plus le double ou 14-15 litres d'eau par minute.
D'accord, ok, il y a une vraie... Ok.
Oui, mais on ne voit pas la différence parce que c'est des petits mousseurs à l'intérieur.
Ouais, c'est ça, des petites billes, là. Ouais.
Qui font un effet mousse. Mm. Et du coup, en termes de ressenti, c'est la même chose.
D'accord. Donc ça fait partie des solutions que vous pouvez mettre en avant avec ce dispositif qui est donc le FNAM. Et puis, autre question aussi, si on a une facture qui est beaucoup trop élevée, comment ça se passe?
Tout d'abord, ce qu'on peut faire, c'est contacter un travailleur social pour faire le point sur la situation de manière générale. Le travailleur social, lui, peut examiner ensuite une demande d'aide à l'énergie. Les demandes, elles sont départementales et donc c'est au cas par cas. Et ensuite, le travailleur social peut nous solliciter et nous envoyer une fiche navette pour demander à ce qu'on intervienne à domicile.
D'accord. Est-ce qu'on peut avoir peut-être sur le site internet plus d'informations? Est-ce qu'il y a des sites internet dédiés à avoir plus d'informations sur ces problématiques-là qui sont la précarité énergétique, toutes ces choses-là? Et si on a besoin de renseignements, si on a besoin d'avoir peut-être une simulation sur sa consommation, tout ça, est-ce qu'il y a des sites internet qui peuvent aider?
Donc sur la précarité énergétique, il y a des sites nationaux qui existent. Après, au niveau local, nous, on a notre site internet de l'ALEC sur lequel il y a des informations sur l'isolation des maisons et des informations techniques, et puis sur le dispositif FNAM également.
Ouais, on peut se renseigner si, toutefois, on se rend compte qu'on en a besoin et qu'on peut faire la demande. On peut avoir déjà une première estimation donc grâce à ce site internet. Merci beaucoup, Aurélie Boguet. Je rappelle que vous êtes conseillère en précarité énergétique pour l'ALEC, c'est l'agence locale pour l'énergie et le climat. Merci à vous.
Merci.
Voilà, Bac FM, tout de suite, c'est le retour du son pop-rock. Vous avez rendez-vous maintenant à 18h30. Voilà, Bac FM, tout de suite, c'est le retour du son pop-rock. Je vous donne rendez-vous à 18h30 avec mon invité, le docteur Lemoine. Dans cet invité du soir, on reviendra sur la situation médicale dans la Nièvre. Un grand sujet qu'on va évoquer avec mon invité tout à l'heure à 18h30.